Notre langue reflète beaucoup de qui nous sommes, la façon dont on a été formaté, éduqué, conditionné, nos origines, notre façon de penser le monde et d'y avoir une place. Notre langue reflète l'état de notre société et notre société est très largement dominée par les hommes, alors notre langue l'est devenue elle aussi. De la même façon, si notre langue avait une couleur, ce serait le blanc, car ce sont des hommes blancs qui ont le pouvoir et s'arrogent le droit de modeler la langue à leur image et pour servir leurs intérêts. Même si elle ne l'a pas toujours été, notre langue est devenue sexiste. Non pas par l'opération du Saint-Esprit, quoiqu'il n'aurait sans doute pas mieux fait, non plutôt à cause d'interventions masculinistes. Certains hommes ont compris l'avantage qu'ils pourraient tirer de faire disparaître le féminin de la langue. Et il faut bien le constater et le regretter, la lutte contre le sexisme n'a pas encore convaincu tout le monde. Certains n'ont rien à y gagner et vont y perdre de leur pouvoir de nuisance. Certaines auraient à y gagner mais ne le voient pas. D'autres pensent que ce n'est pas important, d'autres encore ne pensent pas du tout. Et pourtant, c'est une guerre qui se joue là. C'est la guerre des conservateurs contre l'égalité des sexes. C'est la guerre des réacs contre la reféminisation de la langue. La domination masculine aurait-elle du plomb dans l'aile? En tout cas, certains flippent d'y perdre beaucoup. Ainsi, l'Académie française crie au péril mortel, et je la comprends, parce que de mort, il pourrait être question, mais de la sienne surtout.
Du poil sous les bras.
La petite blanche dans du poil sous les bras.
Bonjour Eliane Vienno.
Bonjour.
Merci d'être là avec moi en studio. Eliane, tu es professeuse de littérature française à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne et spécialiste, entre autres, de Marguerite de Valois. Et tu travailles depuis quelques années déjà sur la place du féminin dans la langue française. Autrice de « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin », petite histoire des résistances de la langue française, co-autrice de l'Académie contre la langue française et aussi, bien sûr, de Le langage inclusif, pourquoi, comment, un livre paru aux éditions X. Et ça tombe bien puisque c'est de langage inclusif dont nous allons parler ensemble. Mais essayer de parler de langage inclusif, c'est vraiment prendre des risques, c'est prendre le risque de voir son interlocuteur ou son interlocutrice s'énerver avant même qu'on ait pu finir sa phrase. Pourquoi tant de haine dès qu'on prononce les mots « langage inclusif » ? Est-ce que c'est par ignorance d'abord ?
Oui, je pense que pour beaucoup, c'est de l'ignorance, parce que de fait, quand on parle le langage inclusif, ça ne s'entend pas ou ça ne se remarque pas, ou très peu. Les gens trouvent ça tout à fait naturel. Ce qui choque un peu plus peut-être, c'est lorsqu'on passe à l'écrit et que à l'écrit, en général, hein, on veut aller vite et donc on utilise des abréviations. Mais si on n'utilise pas les abréviations, ça ne se voit pas non plus, que c'est du langage inclusif. Et les gens, en général, ne protestent pas du tout parce qu'ils ne voient pas. Et les points, alors ces fameux points médians là, qui sont apparus, en fait, ça fait une quinzaine d'années qu'on les utilise. En concurrence avec d'autres signes, d'ailleurs. Hein, on a commencé par les parenthèses, et puis les traits d'union, et puis les points. Enfin, on bricole, quoi, grosso modo. On bricole depuis une vingtaine ou 25 ans pour essayer d'écrire de manière un petit peu plus égalitaire. Et bon, ben là, ça énerve. Mais ça énerve, je dirais, en fait, depuis l'année dernière, depuis qu'il y a eu cette polémique énorme autour du manuel scolaire à Thiers, où il y a, je crois, en tout et pour tout, une dizaine de points milieu ou de points médian, comme on veut, et qui est un excellent manuel, par ailleurs, personne ne l'a remarqué, mais bon, voilà, c'est instrumentalisé, le débat est instrumentalisé, notamment par les gens qui sont mobilisés pour la manif pour tous, etc. Depuis quelques années, ils sont très, très attentifs sur ce qui se passe à l'école. Ils ne veulent absolument pas que les stéréotypes de sexe soient remis en cause à l'école. Et ce sont eux qui ont déterré ce pauvre manuel avec ses 10 points milieu et qui en ont fait une affaire d'État.
Mais alors quand même, je te trouve un peu tendre là. Bon, c'est par ignorance, certes, les gens ne savent pas, ils ne notent pas qu'il y a du langage inclusif finalement dans la vie de tous les jours. Ça ne leur pose pas de problème tant qu'on n'en parle pas. Mais alors quand on en parle, il y a quand même, au-delà de l'ignorance, il y a la peur. Il y a la peur de ce combat pour en finir, en tout cas avec la suprématie du masculin sur le féminin. Il y a cet enjeu de domination masculine. C'est ça qui est au cœur de ce langage inclusif, c'est la domination masculine.
Oui, bien sûr, l'enjeu est absolument énorme. Il est révolutionnaire, quelque part. Mais ce que je veux dire, c'est que tant qu'on ne met pas les mots sur la chose, personne ne s'en rend compte. Hein? C'est-à-dire que si on se met, au lieu de parler tout au masculin, on dit les femmes et les hommes qui pensent ça, les institutrices et les instituteurs, personne ne voit le problème. Personne ne le sent. Les accords de proximité, ça se fait tout à fait naturellement, ça se refait de manière naturelle parce que c'est intuitif. Si les accords de proximité qui viennent du latin, qui ont été transmis à toutes les langues romanes et aux français ont survécu, c'est parce qu'ils étaient complètement intuitifs, hein, de dire les femmes et les hommes sont beaux ou les hommes et les femmes sont belles. Bon. J'espère que je l'ai dit dans le bon sens.
Les hommes et les femmes sont belles, tout à fait. C'est
voilà,
dans le
voilà.
Bon sens.
Donc ce type d'accord, c'est tellement intuitif que quand on les fait, personne ne s'en rend compte. En revanche, quand on se met à dire ceci est du langage inclusif, ça veut dire le langage ordinaire ne l'est pas, le langage ordinaire exclut, notamment les femmes, et qu'on se met à parler féminin, masculin. Alors là, les gens, parfois, perdent pied. Hein, ils ont l'impression que le sol se dérobe sous leurs pieds, parce que, d'abord, on va toucher à la langue. Ils ont l'impression que ça, c'est... Voilà, ils ont appris la langue et quand ils étaient petite, c'était dur. Souvent, les gens ont des souvenirs épouvantables et ont gardé des séquelles, enfin, de troubles par rapport, parce qu'on ne sait pas, l'orthographe, elle est tellement bizarroïde, parfois, l'orthographe française, que personne n'arrive à la mémoriser. Donc, tout le monde a été traumatisme. Et en même temps, tout le monde a l'impression d'avoir quand même fait le maximum pour avoir bien appris. Et maintenant, on leur dit que c'était pas bien, quoi. Donc, ça panique. Et puis, il y a l'idée de remettre en cause pas n'importe quoi, pas simplement des savoirs faux ou des choses comme ça, mais de remettre en cause la domination masculine. Et ça, oui, il y a des gens qui sont d'accord pour remettre en cause la domination masculine, mais il y a des gens qui ont l'impression que la vie va s'arrêter si on remet en cause le fait que les hommes sont quand même plus importants que les femmes, qu'ils ont quand même un petit peu plus de droits que les femmes, etc. Là, c'est quand on fait le lien entre au fond ce qu'on fait concrètement en parler, qui fait peur à personne, grosso modo, et qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on analyse ce qu'on est en train de faire, et quand on fait voir à quel point le langage ordinaire est sexiste, là, souvent, les gens sont paniqués. Et une partie des gens, pas paniqués, mais des gens qui découvrent qui découvrent ça, parfois, les gens sont très contents de découvrir des choses nouvelles. Et puis, parfois, ils ont peur. Ils prennent peur et donc, ils réagissent de manière violente.
Et alors, c'est ça qui est vraiment extrêmement bien fait dans ce petit livre, hein, qui n'est pas si énorme, Le langage inclusif, pourquoi, comment. Tu fais des rappels historiques et puis tu démontes, tu décryptes toutes les fausses idées qui font peur à ces gens-là. Parce que les gens ont peur parce qu'ils croient que... Et alors, j'ai fait le test, hein, moi, avant cette émission, d'en parler à des gens. Et effectivement, on entend, j'allais dire, à 95% des âneries sur ce qu'est le langage inclusif. Par exemple, et je vais prendre ne serait-ce que celui-là, mais de dire « Ah oui, mais on n'a pas besoin d'inventer des mots nouveaux ou de pour féminiser la langue ». Non, on n'a pas besoin d'inventer des mots nouveaux. Ils existent déjà dans la langue, presque sans exception, je crois. En tout cas, quand il y a un substantif masculin qui a été créé, il y a toujours eu un substantif féminin qui va avec.
Et inversement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une activité et où il y a des gens qui l'exercent, le français comme l'italien, l'espagnol, enfin comme toutes les langues du monde, savent trouver un mot immédiatement pour dire, pour dire à la fois l'activité et la personne qui l'exerce. Donc c'est d'une facilité, enfin c'est comme ça que ça fonctionne tous les jours. Dès qu'il y a une activité nouvelle, un mot nouveau, si on pense à blog ou à zap, hein, zap, on a fait zapper, et puis il y a des zappeurs fous, des zappeuses folles, et puis il y a des blogueurs, des bloqueuses, ça gêne pas. En fait, on se rend compte quand on fait cette histoire que les seuls mots où ça pose problème, c'est une toute petite poignée, je dirais, ou deux poignées de mots qui sont ceux qui touchent les occupations considérées comme masculines. C'est-à-dire, si on dit voilà, à quelqu'un qui vend de la crème, le monsieur c'est un crémier, la dame c'est une crémière, ça pose problème à personne, hein. Quelqu'un qui exerce la coiffure, c'est un coiffeur ou une coiffeuse, ça pose problème à personne. Mais quelqu'un qui professe, comme moi par exemple, on est des femmes quoi ? On disait professeuses autrefois, tout simplement. Hein, et ça existe depuis des siècles, les professeuses. Sauf qu'elles n'étaient jamais à l'université. Ce n'étaient jamais des professeuses d'université, c'était des professeuses pour la petite école, ou c'était des professeuses particulières. Hein. La question, c'est quand les femmes arrivent sur des positions, dans des positions qui ont pendant des siècles été monopolisées par les hommes, c'est-à-dire qu'elles sont très prestigieuses et qu'ils estimaient en tout cas, j'imagine que c'est fini un peu aujourd'hui et encore, faudrait voir, que les hommes pendant très longtemps ont estimé qu'être leur précaré. Mettre des requêtes, depuis qu'il y existe un parlement en France, c'est-à-dire depuis 7 ou 8 siècles, c'est une position d'homme. Donc ils ne veulent pas qu'on dise maîtresse des requêtes. Or maintenant, il y en a des maîtresses des requêtes. Mais alors, ils inventent tout et n'importe quoi, c'est ridicule, ça va faire cochon, etc., etc. Tout plutôt que de laisser la fonction être normalement habitée par des femmes.
Souvent, c'est des arguments carrément fallacieux et les personnes qui emploient ces arguments le savent très bien que c'est de la mauvaise foi, les mots existaient. Et tu parlais à l'instant des domaines un peu réservés, en tout cas que les hommes auraient bien aimé se réserver pour eux, et c'est notamment le pas un hasard si autant d'attaques ont été dirigées contre les mots autrice ou écrivaine. Parce que ça, que les femmes s'emparent de la parole publique, tu le dis dans le livre, ça a fait peur.
Ben oui, parce que c'est le... Historiquement, alors ça doit remonter même bien avant la fondation de la France, enfin je veux dire, les gens qui maîtrisent la parole, l'écrit, c'est les hommes, c'est les clergés. Hein, c'est fait pour, et quand je dis clergé, je ne veux pas dire simplement pour question religieuse, même si souvent c'est les religions qui ont mis en place hein, des groupes pour écrire les textes, surtout dans les religions du livre. Mais donc voilà, ça fait peur. Et donc ce sont les dernières, je pense que ça va être avec, si tu veux, l'armée, c'est-à-dire le commandement, ça c'est... Là, c'est truc de mec, quoi, hein, le commandement. Donc là, ça résiste beaucoup de dire la colonelle avec un E, ou bien la chef, ou bien voilà. C'est tout ce qui est le leadership, au fond. C'est connoté comme masculin. Donc là, on dit qu'il y a problème avec les mots féminins. Il y a les dignités. Donc, par exemple, aujourd'hui, la Légion d'honneur, hein, les grades de la Légion d'honneur, eh ben, on reçoit, moi je suis chevalière, mais c'est moi qui le dis que je suis chevalière de la Légion d'honneur, parce que l'autorité qui m'a donné ça, elle estime que je suis un chevalier. Voilà. Donc, les dignités, le commandement et l'écriture, la parole publique. Donc ça, c'est le cœur de ce qui est défendu aux femmes. Et on ne peut plus aujourd'hui le défendre concrètement, on ne peut plus empêcher, maintenant les femmes passent des diplômes, elles reçoivent la Légion d'honneur, mais on continue à bagarrer, enfin certains continuent à bagarrer sur le seul terrain qui leur reste, c'est-à-dire celui des mots.
Et puis certaines aussi, certaines prennent le parti de certains pour dire « oui, mais par exemple, chercheuse, ça fait pas très sérieux. Chercheur avec un E, c'est plus sérieux. » Donc il y a aussi ce mouvement-là que tu expliques avec des femmes qui finalement préfèrent garder un mot un peu plus masculin dans sa prononciation, voire même qui ne s'entend pas, dont la différence ne s'entend pas à l'oral, parce que elles ont intégré le fait qu'un mot masculin, c'était peut-être plus noble, plus sérieux, ça faisait mieux.
Ce qui est tout à fait normal, si elles ont intégré ça, c'est qu'on nous l'a mis dans la tête. Et c'est pas pour rien qu'on nous l'a mis dans la tête, c'est pour que ça y reste. Alors bien sûr, il y a des personnes qui comprennent, qui analysent et qui se disent peut-être qu'on m'a mis dans la tête quelque chose qu'on n'aurait pas dû ou que je récuse. Mais les femmes qui pendant des années se sont dites le maire ou le député ou je ne sais trop quoi encore de complètement contraire au fonctionnement de la langue française, elles avaient compris, elles avaient entendu 5 sur 5 le fait que c'est mieux quand c'est masculin. Et donc, pour certaines, c'était un peu, elles se disaient, j'ai d'autres chats à fouetter que de me bagarrer là-dessus, et on peut les comprendre, parce qu'effectivement, elles avaient d'autres chats à fouetter. Mais pour beaucoup, elles ont intégré cette obligation, et même elles la défendent, parce qu'elles y croient, comme on croit au Père Noël, que le masculin, c'est mieux. Elles oublient juste que ça n'empêche pas qu'elles sont des femmes. Et qu'elle trompe personne.
Du poil sous les bras.
Et les poils dans tout ça. Alors dans du poil sous les bras, j'aime bien avoir l'envie de l'inviter sur ses poils.
Qu'est-ce que je pense des poils sous les bras ?
J'ai un rapport plutôt friendly à mes poils. Je vois pas trop le problème. Je me suis jamais épilée sous les bras. Une fois, mais j'ai trouvé ça tellement désagréable que c'était épouvantable. Donc voilà, c'est fini. Et puis, bon, sur les jambes, oui, je trouve pas ça très joli, mais bon, je m'en fiche, quoi, grosso modo. Il est sûr que ça fait partie, le fait que les femmes doivent s'épiler, c'est une des injonctions qu'on leur imprime. Dans notre monde, hein, c'est pas partout pareil. Hein. Il y a des pays où, au contraire, il faut, notamment en Amérique du Sud, par exemple, parce que les Indiennes n'ont pas de poils. Donc, pour faire la différence, il faut laisser ses poils. Donc, c'est culturel, c'est complètement culturel. Et donc, j'imagine que c'est considéré comme très, très beau en Amérique du Sud d'avoir des poils quand on est une femme, du moins du point de vue de la classe dominante. Et donc, c'est culturel et j'espère que ça va s'arrêter parce qu'il n'y a pas besoin de... Les hommes, les cyclistes se rasent, paraît-il, pour aller plus vite. Donc, voilà, on ne devrait pas en faire une affaire, quoi. C'est plutôt ma position. On devrait faire comme on veut, voilà, ou comme la situation le veut. Si les nageurs, si ça freine, je comprends qui s'épile et qu'elle s'épile. Mais tout le monde n'est pas nageur ou nageuse de compétition. Donc, voilà, on devrait pouvoir sortir avec en short, avec des poils, sans qu'on ait des réflexions, ça c'est sûr.
That's it!
Et on retrouve Eliane Viennot, professeuse de littérature française à l'Université de Saint-Étienne et autrice, entre autres, de Le langage inclusif, Pourquoi, comment, un livre paru aux éditions X.
Du poil sous les bras.
La langue est un outil d'émancipation, elle sert à dire. Une femme peut travailler sur un chantier, porter des costumes sombres, écarter les jambes quand elle est assise, gagner beaucoup d'argent, faire de la boxe. Un homme peut rester chez lui pour élever ses enfants, porter des chemises à fleurs, partir en vacances avec des copines, faire pipi assis, etc. C'est un extrait du livre « Le langage inclusif. Pourquoi, comment ?» Et on en parle avec Eliane Viennot en ce moment. Ça m'a fait beaucoup rire cet extrait, notamment le « faire pipi assis » que je recommande grandement aux mamans et aux papas qui ont des petits garçons. Et de leur apprendre à faire pipi assis très tôt et de leur expliquer pourquoi, comment c'est bien de faire pipi assis, eh bien, c'est rendre service au reste du monde. Un petit livre, en tout cas, historique et pratique. Le livre donne un tas d'armes pour finalement affronter cette guerre des sexes, cette guerre d'égalité homme-femme. Et quelques rappels historiques qui sont extrêmement bons à prendre. D'abord parce qu'ils sont légers, ils sont dispatchés comme ça, dans la joie et la bonne humeur dans le livre. Et on les lit avec grand plaisir. Et on y découvre que, voilà, contrairement à ce que veulent nous faire croire les détracteurs du langage inclusif, pour éviter tout débat, rien n'a jamais été figé dans la langue. Elle a toujours évolué, elle a même été bien plus féminisée qu'aujourd'hui. Au Moyen-Âge, il y avait des féronnes, des mairesses déjà, des maréchales, des tavernières. Mais au fur et à mesure, voilà, que les hommes ont pris le pouvoir, surtout, ils ont masculinisé la langue. Et quand est-ce que ça a vraiment commencé à dégénérer? Est-ce que c'est avec la création de ce que tu nommes dans le livre « La police de la langue » ?
Alors oui, la police de la langue, elle naît, c'est l'Académie. Hein, qui s'est faite police de la langue, et l'Académie est née en 1635. Ça ne veut pas dire que la langue n'était pas était égalitaire avant, hein, parce que les lettrés sont là depuis plus longtemps que ça, et notamment depuis que les universités ont été créées et que les lettrés, les universitaires ont eu de plus en plus de poids dans la vie intellectuelle, dans la vie politique, etc. La langue a été masculinisée, mais ça se fait de manière sans doute. Alors, il y aurait encore beaucoup de recherches à faire. Hein. Moi, je suis loin d'avoir fait le tour de ça. Je ne sais même pas si c'est possible, d'ailleurs, si on a les textes. Mais il ne semble pas qu'il y ait eu d'action délibérée de l'idée de masculiniser la langue. C'est plutôt que ces messieurs qui sont les rédacteurs, qui sont ceux qui écrivent, qui sont, etc., ont un peu tourner la langue à leur avantage, puisque c'était eux qui parlaient tout seuls, d'une certaine manière. Hein. Bon. En revanche, ce qu'on observe à partir du XVIIe siècle, c'est autre chose. D'abord, il y a une institution qui existe, alors que jusque-là, il n'y a pas d'institution. Ce sont des individus qui ont plus ou moins d'influence. Mais, et puis le, La France n'est pas du tout centralisée. Il y a beaucoup de lieux, au Moyen-Âge par exemple, il y a beaucoup de lieux de vie culturelle, il y a beaucoup de cours régionales. Le français n'est pas du tout la langue commune. Donc, tant qu'on n'est pas dans un régime qui va vers sa centralisation, qui va vers la monarchie absolue, il y a des individus, il y a des endroits, il y a des tendances, etc. Point. Ce qui est vraiment nouveau au XVIIe siècle, c'est que d'une part, il y a une institution qui se met sur pied, que cette institution se voit déléguer le pouvoir de faire un dictionnaire. Alors, au départ, il devait faire bien plus que ça qu'un dictionnaire. Il s'était engagé à faire 4 types. C'est redoutable. Ça aurait été redoutable. Heureusement qu'ils sont très, très paresseux et qu'ils n'ont fait qu'un dictionnaire à peu près 2 par siècle. Donc, d'une certaine manière, ça a limité les dégâts. Mais il s'était engagé à faire une grammaire, à faire une rhétorique, à faire une poétique, etc. Donc, il y a vraiment une police de la langue et du bien dire et du bien écrire et même de la littérature. C'est ça que voulait Richelieu au départ. Il ne voulait pas du tout, il s'en fichait des dictionnaires. Il voulait des écrivains au service de l'État. Bon, il a raté son coup. Ce sont les écrivains ces écrivains-là qui se sont mis à leur propre service. Hein. Mais donc, cette police de la langue, elle se met à faire donc un dictionnaire. C'est la raison d'être de l'Académie. Ils n'en ont pas d'autre. Donc, ils traînent ce boulet depuis 1600 et quelques. Ils ont mis 60 ans à faire le premier dictionnaire. La fin des haricots a été sonnée je ne sais combien de fois. Tout le monde voulait abandonner, etc. Ça n'intéresse personne. Personne, depuis que l'Académie a été créée, c'est devenu une institution très vite, une institution prestigieuse où les gens veulent être pour pouvoir dire qu'ils sont à l'Académie. Point barre. Je veux dire, ils n'ont absolument pas envie de faire un dictionnaire. Donc, il y a toujours 3-4 malheureux qui s'y collent, parce que sinon, on dissout. Hein. Mais je vous dis, ils font un dictionnaire tous les 50-60 ans. Là, celui qui est en cours, il aura bientôt 100 ans. Hein. Il a commencé dans les années 30. Enfin, bon. Donc, mais il n'empêche que cette institution a obtenu petit à petit une espèce de voix au chapitre qui, bien qu'ils disent qu'ils ne sont que les greffiers de la langue, ils ne font qu'enregistrer les usages, etc., que rien du tout, ils font bien plus qu'enregistrer les usages, ils dictent les usages, ils disent ça ne doit pas se dire, ça ne doit pas se faire.
Et c'est d'autant plus anormal qu'il me semble que tu dis dans le livre que finalement, il n'y a pas de linguiste, il y en a eu très peu, il y en a eu un qui est mort 1900 et quelques, et puis un qui est arrivé récemment, mais que finalement, dans l'histoire, les gens qui sont en plus à l'Académie française pour faire ce dictionnaire, ou peut-être pas forcément toutes les compétences.
Ils n'en ont aucune même, c'est clair. Hein. Je veux dire, depuis que la... Alors, ça a toujours été, encore une fois, ça a toujours intéressé que très peu de ces 40 personnes, de ces 40 hommes, puisque 40 hommes, puisqu'ils ont été des hommes jusqu'en 1980. Mais il y avait quand même des gens assez compétents, on va dire, sexistes, mais compétents, jusqu'à la fin du 19e siècle. Depuis que la linguistique existe, c'est-à-dire depuis qu'on a une science... science humaine, bien sûr, hein, c'est pas une science comme les mathématiques, mais depuis qu'on a des vraies études là-dessus, des vrais travaux, des vraies thèses, ils n'ont jamais intégré le moindre linguiste ou la moindre linguiste, parce que, enfin, il y en a une qui est Barbara Cassin, qui peut peut-être être considérée comme la première exception depuis plus de 120 ans. Je sais même pas comment, par quel miracle elle est arrivée là, mais et ni si ça va avoir un effet. Mais ils craignent terriblement les linguistes, hein, puisque au fond les linguistes disent depuis, les linguistes se marrent depuis que l'Académie est née, enfin d'une certaine manière. Et surtout au XXe siècle, parce que ces gens-là sont totalement incompétents. Et en plus, ce qu'il faut savoir aussi de nos jours, c'est que ça fait depuis les années 90, ils ne font même plus leur dictionnaire. Ce n'est pas eux qui font le dictionnaire dit dictionnaire de l'Académie. Ils sont trop vieux, ils sont trop incompétents, ils sont trop... voilà, et c'est sûr, ils sont très, très vieux. Ils ont tous plus de... à peu près 80... Les dernières études disent qu'ils ont 80 ans d'âge de moyen. Donc, on ne fait pas travailler des vieilles personnes comme ça, parfois malades, etc., comme il faudrait. Faire des dictionnaires, on peut regarder ce que font les gens de Larousse, de Robert, etc. C'est des entreprises. Il faut bosser, il faut lire. Enfin, il faut décider, il faut penser, il faut savoir. Et ces gens-là ne le font pas. Donc, il y a un service qui travaille pour eux, qui est le service du dictionnaire, où on a des fonctionnaires de l'État qui devraient être dans les écoles devant les mômes et qui sont dans une petite niche, et tant mieux pour eux, et qui font rien non plus. Et voilà, c'est ça. Donc, bien sûr qu'ils sont totalement incompétents. Alors, quand ils descendent dans l'arène pour expliquer pourquoi il faut faire ceci ou cela, en général, c'est totalement ridicule. La dernière fois, c'était encore plus ridicule que jusqu'à présent, parce que c'est complètement vide, leur dernière déclaration sur le péril mortel. Il n'y a rien dedans. C'est pathétique à quel point il n'y a rien dedans.
Mais tu dis que même la presse a fini par les lâcher, les médias, enfin tout le monde, en fait,
oui.
A fini par se dire... Bon,
là, oui, il y a un problème, là. Parce que, et quand ils disent on ne comprend pas l'objectif, je crois qu'ils sont les seuls de la France à ne pas comprendre quel est l'objectif du langage inclusif. Enfin, je veux dire, c'est ahurissant, quoi. C'est juste ahurissant. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec cet objectif, mais en général, on comprend qu'on veut parler une langue moins sexiste. Eux, ils n'ont toujours pas compris.
En tout cas, tranquillement, au cours des années, du coup, certains ont décidé de dégager le féminin pour mettre le masculin à la place et dire bah, « maintenant, c'est la norme, hein, ni vu ni connu, je t'embrouille, hop, on met des hommes de partout ». Et un autre argument aussi des fois utilisé, c'est de faire croire que finalement, il n'y a jamais eu de contestation, que tout allait bien. Eh bien si, il y a toujours eu de la contestation, il y a toujours eu des gens pour s'émouvoir quand même de ce qui était en train de se faire et pour dire « attention, non, c'est important et on ne peut pas laisser faire n'importe quoi ». Aujourd'hui encore, quand on nous fait croire que c'est un combat de féministes radicales, un peu énervées, qu'elles sont seules au monde, pas du tout.
Oui, et on se trompe vraiment beaucoup. Parce que les féministes ne sont finalement pas les premières. Elles ne sont pas en première ligne pour se bagarrer là-dessus, enfin, historiquement en tout cas. Il y en a eu, bien entendu, il y en a toujours, mais elles sont souvent, jusqu'à ces dernières années, elles étaient très minoritaires. La plupart des féministes pensaient que ce n'était pas important non plus. Et en revanche, on a des usagers et des usagères qui protestent au fil de l'histoire parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi les mots qu'ils utilisent tous les jours sont condamnés par les messieurs, comme ils disent, les messieurs de l'Académie. Il y a des grammairiens qui protestent, parce que les grammairiens voient bien que c'est contraire aux usages du français. Le français veut qu'on parle des femmes au féminin et des hommes au masculin, quelle que soit l'activité qui soit exercée par cette personne. Donc, il y a toujours eu des protestations, et bien sûr, ça non plus, on ne le savait pas. Donc, il faut des protestations, des gênes, parce qu'il y a des positions mitoyennes hein, dans certaines grammaires. Bon, ah ben oui, bon, il faudrait faire comme ça, mais en fait, les gens font autrement. Donc voilà, on voit bien que ça ne marche pas, parce que la police de la langue qu'ils ont essayé de mettre sur place du point de vue du masculin, au partir du XVIIe siècle, en fait, c'est aussi ça. Non seulement c'est délibéré, c'est fait par une institution, avant ce n'était pas fait par une institution, mais ça va contre le fonctionnement du français. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que les gens ont protesté. La plupart des gens qui protestent ne sont pas féministes. Ils, ne croient, ils n'ont pas l'idée, ils n'ont pas de discours féministe. Ils disent, mais écoutez, nous parlons normalement. Quand nous disons une autrice, une peintresse, une libraresse, on a un monsieur, par exemple, un critique littéraire du XVIIIe siècle, qui dit mais enfin, on dit comme ça tous les jours à Paris. Donc, ce n'est pas un paysan qui colporte du mauvais parler du Poitou, je ne sais quoi, hein, comme disent les académiciens. Non, c'est des Parisiens, des intellectuels parisiens en plein milieu du XVIIIe siècle qui disent « On dit tous les jours à Paris une autrice, une peintresse, une libraresse. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas le dire ?»
Ça, c'est une autre des croyances que tu attaques dans le livre. C'est de dire, par exemple, quand on dit « c'est moche, c'est laid, une mairesse », voilà, ces mots en « s », ça n'a rien à voir avec le beau. Le moche, c'est une question d'usage. C'est-à-dire que si on les utilise, comme on utilise la maîtresse, eh bien, ils rentrent dans les mœurs, on est habitué, l'oreille est habituée et ils posent de problème à personne. C'est le fait de les avoir fait disparaître qui donne des arguments à ceux qui ne voudraient pas les voir réapparaître en disant « mais non, mais regardez, c'est laid, on ne peut pas toucher à ça ». Rien n'est laid dans la langue de ce qui existait et de ce qu'on peut remettre au goût du jour.
Non, non, il y a les questions d'esthétique sont complètement absurdes du point de vue de la langue. Ça fait partie des arguments qui sont des différents arguments qui sont opposés au nom féminin. Parce que jamais personne ne proteste sur le fait qu'un mot masculin est laid. On n'entend jamais, en tout cas. Hein? Bon, alors, et quels sont les mots qui se trouvent laid? Justement, ces mots qui désignent des femmes occupant des fonctions prestigieuses et connotées masculines. Donc, ça fait partie des arguments. Il y en a d'autres. Il y a « c'est ridicule », il y a « c'est imprononçable », il y a « c'est bon pour la femme de », Il y a tout un panel d'arguments qui ont été inventés, même on entend ça dans, vous savez, dans le mot écrivaine. Ah, c'est vilain, on entend veine. Et dans écrivain, on entend quoi? Ben, on entend vin pareil, même on entend écrivain. C'est encore pire. Donc, ça, encore une fois, ce sont des. Et puis, il y a encore d'autres arguments. C'est, oh, ça va, c'est mal connoté. Une entraîneuse, par exemple, oh, on va vous prendre pour une semi-prostituée. Mais non, je veux dire, c'est un. De même qu'un avocat, on le prend pas pour un fruit, en fonction de la phrase. La phrase dit que l'avocat a plaidé, personne ne se trompe avec l'avocat qu'on a mangé à midi. L'entraîneuse, si on est dans les années 50, dans des bars, etc., louches, si on parle d'une entraîneuse, on voit de quoi on parle. Mais si on est aujourd'hui dans un haras qui s'occupe d'élever des chevaux, une entraîneuse, c'est pas celle-là, c'est autre chose. Donc, ce sont des arguments qu'on tend aux femmes pour qu'elles n'utilisent pas les mots qui leur reviendraient normalement.
Du poil sous les bras.
Avec Eliane Viennot. Les lois ont changé, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui dans les lois et les textes du journal officiel un attirail qui devrait permettre un peu plus d'égalité de fait dans la langue, mais il y a encore des freins. Il y a encore des freins. Alors, en dehors de l'Académie française, un des autres freins, c'est la haute fonction publique qui fait encore barrage, qui n'a pas très envie qu'on aille au bout du processus d'égalité et qui continuait jusqu'à il y a quelques années à veiller, par exemple, qu'aucune célibataire ne soit répertoriée sous l'appellation « madame ». Voilà, il y a encore des usages qui sont extrêmement difficiles à changer, et dans les sociétés aussi, on le voit, dans les entreprises, dans les courriers des entreprises. Qu'est-ce qui manque pour qu'on passe un peu ce cap, qu'on arrête d'être tolérant, d'être mou ou molle, de ne pas voir que c'est important, et puis pour faire bouger ce palier-là qui bloque encore un peu?
Alors, il y a deux obstacles. Le premier, c'est la féminisation réelle, sociale, de ces professions. La haute administration, par exemple, quand on s'est battu pour la parité à la fin du XXe siècle, ils étaient encore plus nombreux qu'à l'Assemblée nationale. Donc, tant qu'on ne féminise pas drastiquement la haute administration, les directions des banques, les directions de ceci et de cela, il y aura majorité de personnes, c'est-à-dire des hommes, pour trouver que la tradition, c'est très bien. Hein. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut effectivement mener un débat citoyen sur la langue et sur les usages que nous avons de notre langue. Et sur le fait que c'est un bien commun, la langue, et que nous devons imposer la langue qui nous semble la plus juste pour représenter le monde aujourd'hui. Et ça se passe pas. C'est pas la même chose que les outils qui servent à féminiser les corps, les grands corps, etc. Mais c'est un débat citoyen. C'est moi ce que je fais. Il faut en parler. Il faut reprendre ça. Il faut ce qui est bien aussi, c'est que chacune peut agir. Chacun peut aller à sa banque et dire, dites donc, vous allez arrêter de m'appeler mademoiselle. Là, ça fait 6 fois que je vous le demande. Moi, c'est ce qui m'arrive.
Bon, moi aussi.
Voilà, dire, oh, mais je change tout de suite, il n'y a pas de problème. Mais le prochain chéquier que je reçois, c'est au nom de mademoiselle. Je dis, vous avez été sûr que vous avez fait ce qu'il fallait. Donc, voilà. Et puis écrire, téléphoner, passer des courriels. Je sais pas, tous les présentateurs de radio qui disent bonjour à tous. Alors maintenant, les auditeurs peuvent appeler. Eh ben, les auditeurs seulement, pas les auditrices. Donc, c'est à nous d'avoir cette vigilance, c'est-à-dire, écoutez, nous existons aussi. Nous existons aussi. Donc, si vous voulez. Alors, soit vous ne voulez pas de nos sous, vous ne voulez pas qu'on écoute vos radios, vous ne voulez pas qu'on lise vos journaux, etc. Alors, OK, assumez, parlez aux hommes. Mais si vous voulez aussi du public féminin, il faut lui parler aussi.
Et puis, arrêtez de nous dire qu'il y a les hommes avec un grand H. Ça, c'est un autre grand mythe.
oui, c'est une blague, ça. C'est le grand H qui s'entend très bien à l'oral et puis qui ne veut rien dire, quoi. Je veux dire, on n'a aucune. Voilà, ils ont décidé ça un jour, mais d'ailleurs sans doute très très récemment, hein, très très récemment ça apparaît, l'idée qu'il faut un grand H au mot homme par exemple, ça apparaît dans la dernière édition du dictionnaire de l'Académie, 19e siècle, début du 20e siècle, c'est pas là. Donc tout ça, ce sont des embrouilles qui sont, voilà, l'humanité c'est l'humain. Alors on a plus ou moins des mots, on a plus ou moins des traditions, etc. Mais aujourd'hui, il faut laisser tomber ce pauvre homme avec ou sans sa majuscule, quand on ne parle pas d'un homme ou quand on ne parle pas des hommes. Et là, oui, bien sûr, les mots sont utiles. Quand on parle de la vraie population masculine, on a besoin de ce mot. Mais quand on parle de l'humanité, on n'a pas besoin de ce mot. On a besoin d'humanité, on a besoin d'humains, on a besoin de gens, on a besoin de tout ce qu'on veut. Mais on a plein de mots pour dire ça, hein, pour dire l'humanité.
Et du coup, effectivement, en lisant le langage inclusif, pourquoi, comment, on voit bien à quel point, finalement, l'écriture, enfin, le langage inclusif, eh bien, finalement, c'est relativement facile pour peu qu'on s'y intéresse et qu'il y a plein de petits outils, plein de petites choses, comme tu viens de dire, qu'on peut mettre en place pour avoir un langage plus inclusif. Est-ce qu'on peut quand même dire un mot, de donner quelques exemples, la règle de majorité, ça, c'est tout bête et finalement, ça paraît tellement logique.
Oui, oui, oui. Ben, quand on regarde les anciennes pratiques des accords, donc avant les dictats de l'Académie, et encore bien après, parce qu'encore une fois, l'Académie, elle dit ce qu'il faut faire, mais les gens ne suivent pas. Hein, et la plupart des gens ne protestent pas, mais ils ne suivent pas, tout simplement. Donc, l'ancienne langue, comme le latin, parce qu'on vient quand même essentiellement du latin pour beaucoup de choses, l'ancienne langue connaissait les accords de majorité. C'est-à-dire s'il y a beaucoup plus d'un, je sais pas,
beaucoup plus que d'hommes que de femmes dans une pièce, on va dire au masculin.
Voilà.
S'il y a beaucoup plus de femmes, bonjour à toutes.
Et puis la politesse veut déjà qu'on s'adresse aussi aux femmes en général. Hein. Mais voilà.
Mais ça choque. Ça choque les hommes si on adopte cette règle de majorité. Et c'est dur de leur faire comprendre que nous, en fait, si vous dites bonjour à tous, si ça ne nous choque pas nous, il n'y a pas de raison que vous soyez choqués à l'inverse. C'est fou tout de même.
Oui, oui, donc il faut faire un peu de pédagogie. Il faut dire, bon là, je vois bien que je m'adresse à une assemblée où il y a surtout des femmes, donc je vais mettre tout au féminin. Ça fait penser, quoi. Ça choque, mais ça fait aussi penser. On se dit, mais bon sang, c'est vrai, nous, on n'est jamais mortes parce qu'on s'adressait à nous au masculin, donc ça doit se faire. Donc il y a la règle de majorité. Elle est historiquement très pratiquée dans les livres qu'on observe autrefois. Il y a la règle, la règle du choix d'une certaine manière. Par exemple, quand on a une énumération où il y a un mot qui semble le plus important de son point de vue, eh bien on fait les accords avec ce mot-là. Et non pas avec ni la majorité, ni le dernier mot, etc. Et puis, il y a l'accord de proximité, qui est le plus simple, au fond, le plus évident, celui qui évite de se casser la nénette. Hein. Je veux dire, il y a une énumération de mots. Le dernier, c'est un mot masculin, j'accorde au masculin. Le dernier, c'est un mot féminin, pluriel, j'accorde au féminin, pluriel, etc. Et ça, c'est extrêmement intuitif. Et encore une fois, les gens le font. Même sans y penser, aujourd'hui qu'on écrit beaucoup sans y penser, les courriels, les machins, moi j'en vois passer constamment des accords de majorité, et puis, de proximité, pardon.
Et puis ajoutons un mot quand même sur l'écriture inclusive dont tu parlais en début d'émission, parce que donc, le langage inclusif, c'est bien au-delà de l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, c'est une partie du langage inclusif, mais c'est la partie un peu visible, un peu qui énerve, hein, tu le disais. Et pas plus tard qu'hier, en lisant un article sur Mediapart fort intéressant, en regardant les commentaires, on voit que la moitié des gens s'énervent parce que juste là où il y a marqué blanche, il y avait blanc.ch.es et ça a fait bondir les foules. Donc l'écriture inclusive, elle est quand même très stigmatisée dans ce débat. Et notamment, on va l'accuser de ne pas être lisible à l'oral. Et dans le livre, tu le dis très bien aussi, tu dis mais... Là encore, à l'oral, c'est intuitif. S'il y a des points à l'écrit, on n'est pas obligé de les dire à l'oral. Et tout comme quand il y a un M pour monsieur dans un courrier, si on le lit, on va dire monsieur un tel, on ne va pas dire M un tel. Donc il y a vraiment revenir à une certaine logique, ou en tout cas ne pas s'en priver sous prétexte que c'est de l'écriture inclusive.
Oui, les abréviations, les gens n'ont pas encore compris bien souvent que ces points... ne sont que des abréviations, c'est-à-dire que les abréviations sont vieilles comme l'écriture. Toute personne qui écrit, quand elle voit une manière d'aller plus vite, elle le fait. Et donc, c'est né de manière complètement spontanée. C'est évidemment pas fait pour l'oral. Non seulement c'est pas recommandé, mais ça ne peut pas se dire. C'est pas fait pour ça. Encore une fois, c'est comme docteur ou comme monsieur ou madame. Bon, c'est des mots qu'on écrit plus courts. Là, c'est une abréviation qui est d'un type nouveau, c'est vrai. On n'a jamais fait ce type d'abréviation, mais ce n'est jamais qu'une abréviation. C'est fait pour dire deux mots en écrivant qu'un seul. Voilà. Mais à l'oral, évidemment qu'on est obligé de dire les deux mots. Et même à l'écrit, on n'est pas obligé de faire une abréviation. De même qu'on peut écrire monsieur en toutes lettres. Donc c'est... Mais il se trouve que quand tout le monde va avoir compris que ce n'est que ça, que ça ne mord pas, les abréviations, les points médians ne mordent pas, tout le monde va les adopter. Parce que tous les gens qui veulent parler de manière un peu moins masculine vont les adopter sans problème.
Ouais, c'est pas, il faut, dans un texte dans lequel on utilise le langage inclusif, au final, et c'est le cas dans le livre, il y a très peu de points médians parce qu'il y a souvent des formulations qui permettent de contourner déjà. Il y a des mots pour lesquels ça ne se fait pas et il vaut mieux mettre les deux mots et on les met. Il n'y a pas de problème non plus. Et puis, il y a des fois, on met...
Il y a tous les accords. Quand on fait des accords de proximité, par exemple, on évite 80% des points. On dit les agriculteurs et les agricultrices ont été reçus UES parce que c'est agricultrice qui est tombée le dernier. Et donc, on n'a pas besoin de mettre point, ES, etc. Donc, il y a tout un panel de ressources qui sont parfaitement françaises, qui sont parfaitement historiquement attestées, qui ont des siècles d'existence, qui permettent d'éviter, moi je sais que, enfin, pas d'éviter, mais de n'avoir à utiliser des abréviations que très rarement.
Et puis, dans le cas d'agriculteurs et d'agricultrices, un autre petit conseil que vous donnez, bien, on peut aussi dire... Le monde agricole, et voilà,
oui,
on résout
exemple.
Tous les problèmes pour ceux à qui ça poserait problème ou celles à qui ça poserait problème. L'écriture inclusive, le langage inclusif, pourquoi, comment, aux éditions X, je le recommande parce que vraiment j'y ai appris énormément de choses et puis on le voit, c'est simple l'écriture inclusive, c'est simple le langage inclusif, on n'attend plus que finalement les gens lisent le livre pour s'y mettre, hein. Il y a vraiment pas d'autre raison qu'on attende plus longtemps. Merci beaucoup Eliane Viennot.
Merci.
Et puis, à bientôt pour un autre ouvrage sur la langue, bientôt.
Bon, j'espère que non. J'espère que celui-là, une fois qu'il sera assimilé, ce sera fini.
Ouais. Normalement, avec ça, on est bon. Même si, quand même, rajoutons-le, et c'est aussi quelque chose sur lequel tu insistes, la langue, elle évolue toujours. Donc, ce combat-là, finalement, ces évolutions-là, eh ben, elles continueront. Demain, on aura peut-être
d'autres choses,
voilà,
oui,
d'autres conseils, d'autres façons d'écrire, et ce ne sera pas grave.
Oh, absolument, on verra si c'est bon. Si ce n'est pas bon, ça ne sera pas adopté. Si c'est bon, ça sera adopté.
Aussi simple que
c'est
ça.
Tout.
Merci, Eliane. Avant de se quitter dans cette émission, quand même, encore une grande nouvelle. Je n'ai toujours pas mes règles. Et oui, depuis que j'en ai parlé avec Élise Thiébaud, je le précise parce que c'est encore un peu tabou d'en parler, de dire qu'on les a ou qu'on ne les a pas. Et ce n'est pas grave. Alors aujourd'hui, c'est non, mais peut-être pour la prochaine.
Le temps est bon. Je ne savais plus entendre, je ne savais plus. Voici que je regarde, que j'écoute et que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps
C'est tout pour aujourd'hui, mais rassurez-vous, Du Poil Sous les Bras est déjà disponible en ligne. Vous pouvez écouter, réécouter et partager l'émission en allant sur le SoundCloud de La Petite Blanc et en vous abonnant, par exemple, au podcast On Air et Sur Terre sur iTunes.